de philosophie critique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 18 janvier 1992.
On a posé la question, quelle différence y a-t-il du regard critique et du regard de philosophie du vivant par rapport à l'intelligence? Par rapport à la volonté, c'est facile à comprendre, c'est plus facile. Par rapport à l'intelligence, c'est plus difficile de comprendre que la philosophie du vivant regarde la vie spirituelle de l'intelligence. Je constate que mon intelligence, de fait, a des opérations diverses. Jugement, toute la gamme des jugements, depuis l'intuition, avec le jugement d'existence, jusqu'au jugement de sagesse et jugement scientifique, la connaissance des principes, et puis cette forme très particulière de la saisie de termes simples. Je constate d'abord les faits, et de là, j'induis cette puissance qui est le nous. En voyant le nous, dans ses opérations les plus profondes, dépasse le point de vue sensible, le point de vue imaginatif. En philosophie du vivant, je peux très bien constater ce que représente la différence entre la signification et la représentation. La critique présuppose toujours la philosophie du vivant. C'est avant tout le point de vue de cette vitalité de l'intelligence dans des orientations différentes pour saisir quelle est cette finalité de l'intelligence qui s'affronte au réel. Qui est capable de dépasser le monde sensible par l'abstraction. Mais c'est le se me verre de l'intelligence qui m'intéresse. L'intelligence se meut. Et l'intelligence a cette capacité d'autonomie. Elle est capable de se mouvoir, de s'orienter, d'affronter la réalité. Et c'est même là, en affrontant la réalité, qu'elle a la capacité de réfléchir sur elle-même. Ce phénomène très particulier de l'intelligence, qui est capable de cette autonomie et de cette réflexion sur elle-même, pour se juger comme vrai. On est capable de discerner que son activité est vraie. Ça, c'est le sémovéré de l'intelligence. Elle se meut. Elle se meut et elle est dépendante. Elle est réceptive et elle se meut. Je crois que c'est ça qui caractérise toute la philosophie du vivant à l'égard de l'intelligence. Au point de vue critique, j'essaie, comme toujours, de voir l'unité dans la multiplicité. C'est pour ça que je me suis posé la question, le jugement, puisque je peux réfléchir sur mon activité de jugement, Mon jugement est capable de discerner cette attitude réflexive que représente l'adhésion intellectuelle. Quand j'adhère, je suis capable de comprendre ce que c'est que cette adhésion, affirmation et négation, d'où la nécessité de découvrir quelque chose qui est premier. Je discerne le comment de la vie intellectuelle. Dans la philosophie du vivant, je cherche avant tout le pourquoi. Je crois que c'est peut-être ça qui aide le mieux à discerner. C'est le comment. Comment le mécanisme, en quelque sorte, de l'intelligence. Comment je ne peux pas rester sur l'affirmation. Si noble et si grande que soit l'affirmation, elle est parfaite. C'est l'opération intellectuelle parfaite. C'est pas le raisonnement. C'est le jugement. Et ce jugement est double. Donc il exige un dépassement pour retrouver quelque chose d'antérieur au jugement. L'appréhension. Et une fois que j'ai discerné l'appréhension, je me dis, mais comment se fait-ce pas ça? Regardez, je reviens. Le flux et le reflux. Et c'est ce que nous avions vu la dernière fois. Ça, c'est vraiment typiquement la critique. Je pars de la dualité. Ceci est le jugement le plus simple. Ce jugement le plus simple, il est complexe. Il implique le nom et le verbe. Donc, il est complexe. Il y a donc quelque chose qui est antérieur. Et ce quelque chose antérieur implique une appréhension qui regarde la quidité. Et ceci à partir de l'expérience que j'ai, que je connais blanc. Je connais homme. Les prédicables. Ce que nous avions vu hier, les prédicables. L'universel, des termes qui ont quelque chose d'universel. L'appréhension. C'est le premier mouvement de l'intelligence qui abstrait. C'est une abstraction extrêmement élémentaire dont j'ai pas conscience. Je constate le fait. Avez-vous conscience? C'est une chose qu'il faut poser à un psychanalyste. Ça le met dans le pétrin. Avez-vous conscience de la première émergence de votre vie intellectuelle? Premier moment, vous avez dit blanc. Vous avez dit homme. Ça les ennuie beaucoup. Parce que là, ils s'aperçoivent que leur psychanalyse ne touche pas le fond. Il y a quelque chose qui échappe à la psychanalyse. Vous voyez, on a fait la psychanalyse de l'affectivité, mais pas de l'intelligence. Et c'est très ennuyeux, ça. Parce que l'affectivité n'est compréhensible que par l'intelligence. C'est très bien, l'affectivité, je suis tout à fait d'accord. Le cœur, hein, très très bien. Mais le cœur, est-ce que c'est intelligible par lui-même? Non. Autrement, vous partez dans un romantisme. Et vous allez à la dérive. On ne peut pas dire qu'il y a deux spiritualités, une spiritualité de l'intelligence, une spiritualité du cœur. Non, il n'y en a qu'une. Le don de sagesse qui unit l'intelligence dans l'amour. Et au point de vue philosophique, la sagesse qui unit l'intelligence à l'amour. Je distingue, mais je ne sépare pas. Or, de fait, dans l'attitude réflexive de la critique, avant l'affectivité, il y a l'intelligence. Autrement, je suis en face d'une affectivité instinctive et romantique. Si je sépare une spiritualité affective de l'intelligence, je tombe dans le romantisme. Et je ne sais plus où je vais. Je ne sais plus du tout. Alors si je suis conduit par le Saint-Esprit, c'est très bien. Quand je suis conduit par le Saint-Esprit, je le sais. Parce que tout don du Saint-Esprit implique l'intelligence, la foi. Toujours. Autrement, là encore, je tombe dans l'illuminisme. Je sens ça. Ah oui, très bien, sentez, c'est vous, le Saint-Esprit. Je suis sûr de ça, c'est vous, le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit, très bien, mais si c'est vous, c'est ennuyeux. Ça va pas très loin. C'est là l'intérêt de la critique. C'est que la critique me montre que fondamentalement, au-delà de tous les complexes psychologiques que la psychanalyse donne, il y a autre chose. Il y a l'intelligence. Alors quand vous demandez à un psychanalyste, est-ce que vous arrivez à discerner le premier moment de la vie de l'intelligence ? L'émergence de l'universel. Puisque c'est ça. L'âge de raison, c'est quand on est capable de savoir que l'intelligence touche l'universel. Ils ne peuvent pas le dire. Ils ne peuvent pas le dire. Ils sont coincés. Alors on montre que la philosophie va plus loin que la psychanalyse. Comme la philosophie va plus loin que la psychologie. Et la psychologie coupée de la philosophie, c'est très dangereux. Parce que je reste dans une subjectivité absolue. Et au fond, la psychanalyse est terriblement subjective. Si elle était loyale, je dirais ça, parce que l'inconscient, c'est la subjectivité absolue dans l'affectivité. Le premier moment où vous avez quitté le réel. Alors c'est ennuyeux de tout fonder sur le premier moment où vous avez quitté le réel. Vous êtes enfermés dans votre refoulement. Le refoulement, c'est l'affectivité qui boude le réel. C'est le gosse quand il boude. Ah non, ah non, ah non, je veux pas. Elle est mauvaise cette soupe. Je veux pas. C'est ça, il boude le réel. Parce que le réel premier, c'est la soupe. Et c'est là où il y a une espèce d'opposition. C'est très, très, très intéressant de voir qu'au fond, tout est fondé sur une subjectivité obscure. Alors, quand vous faites la critique de l'intelligence, vous cherchez quel est le premier moment de votre intelligence, au-delà de la conscience. Le premier moment de ma vie intellectuelle est au-delà de la conscience. Je n'ai conscience que de mon jugement. Et avant le jugement, il y a nécessairement quelque chose qu'il faut poser. Il faut poser la connaissance, la première connaissance de blanc, la première connaissance de homme. Le gosse fait la discernance entre papa et homme. Parce qu'il y a divers papas. Il y a au-delà du papa, il y a homme. vous êtes autonome dans l'ordre de l'intelligence, vous serez autonome dans l'ordre affectif. Vous comprendrez très bien que l'affectivité dépasse d'une certaine manière le point de vue intellectuel quand il s'agit de l'affectivité volontaire, pas l'affectivité instinctive et passionnelle. Et vous ferez le discernement entre l'affectivité instinctive et passionnelle et l'affectivité spirituelle. Il faut comprendre alors que l'affectivité dans l'ordre spirituel peut dépasser l'intelligence, mais pas dans l'ordre instinctif et passionnel. Et c'est là votre autonomie. Autrement, vous êtes dépendante de la plaque de chocolat ou de l'alcool. Et d'autres choses. Qui fait que vous êtes dépendant, on vous mène là, vous savez, comme le chien, vous lui présentez un morceau de sucre, vous en faites ce que vous voulez. Allez, saute. Et puis il suit le morceau de sucre. Parce qu'il n'est pas intelligent. S'il était intelligent, il dirait, ce n'est qu'un morceau de sucre. Et j'ai en moi une subjectivité transcendantale par rapport au morceau de sucre. Je découvre donc l'appréhension qui, le premier moment, et qui a un mode universel. Alors que le jugement est singulier. Alors, voilà, j'ai passé de là. Alors, j'ai passé du jugement à l'appréhension. Maintenant, j'essaie de comprendre quel est le lien entre les deux. Ce qui n'est pas commode. J'ai creusé un fossé énorme entre les deux. Et c'est vrai, ce qui est le plus extraordinaire dans ma vie intellectuelle, c'est que je connais l'universel et je connais le singulier. Et toute la philosophie hegélienne, c'est d'essayer de rejoindre le singulier par l'universel et le singulier rejoint l'universel, d'identifier les deux. On comprend très bien. Et c'est, à ce point-là, on voit que l'hegélianisme a quelque chose de très très fondamental. Parce que c'est le grand problème, ça. C'est le grand problème critique. C'est de voir comment, ayant découvert que ce qui est premier dans ma vie intellectuelle, c'est de saisir l'universel blanc. Comment connaissez-vous blanc avec sa signification au-delà de la représentation du blanc du mur? Le blanc du mur, pouvez-vous le représenter imaginativement, surface blanche, merveilleuse, la neige, dans un haut plateau, c'est infini, merveilleux, le sable du désert, c'est infini. Ça, vous représentez ça, mais blanc, vous ne pouvez plus vous représenter. C'est la signification de blanc. Vous êtes passé de la représentation de l'icône, c'est-à-dire de l'image. Vous êtes passé de la représentation de l'icône, l'image, au concept qui est sa signification. C'est un passage formidable. Pour faire ce passage, je pose l'intellect agent. Et je pose l'intellect agent parce que l'intelligence se meut. Elle se meut dans ce labyrinthe interne de l'imagination. Et j'ai des tas d'images et tout d'un coup, tiens, je saisis quelque chose qui a une signification et qui a un mode universel. Là, je perds pied. Et je pose intellect agent pour ça, pour montrer le cime avéré d'intelligence, tout en gardant la réceptivité. C'est ça qui est très extraordinaire. L'intelligence est réceptive. Donc, elle est émue et elle se meut. Elle est émue et elle se meut. Elle est émue quant à la détermination de l'objet, l'acuité. Blanc implique une certaine forme. Elle est émue quant à ses formes qui ne sont pas elles. Le blanc est une qualité extérieure à moi, extérieure à mon intelligence. Mon intelligence n'est pas blanche. Elle est l'intelligence. Elle est au-dessus. Au-dessus des couleurs. et mon intelligence se meut pour coopérer avec ces formes. Et l'intelligence coopère avec toutes les déterminations des réalités, toutes les diverses quantités. Elle se meut grâce à l'intellect agent, qui fait que, tout en étant réceptive, elle se meut, elle est vivante. Oui, la vitalité de la réceptive, de l'accueil. Il y a un accueil où on est mort, et il y a un accueil où on est vivant. L'intelligence, c'est l'accueil de la vie. Cette autonomie fondamentale et première de l'intelligence par rapport à tout le monde physique, toutes les réalités physiques et sensibles. L'intelligence se meut. C'est prodigieux de découvrir ça et de comprendre alors à ce moment-là que l'intellect agent que je pose, que je suis dans la nécessité de poser à cause du « c'est mauvais ré » d'intelligence. Pour expliquer ce c'est mauvais ré, j'induis, même c'est pas tout à fait une induction, c'est plus une démonstration a posteriori, exactement comme pour l'existence de Dieu. Je pose, puisque l'acte est toujours antérieur à la puissance, il faut donc un acte dans la vie de l'intelligence, l'intellect agent, antérieur à la réceptivité, qui est la capacité de recevoir. Vous voyez, et si je quitte cette position d'intellect agent, je suis obligé de parler ou de l'illuminisme, saint Augustin, ou je suis obligé de poser des idées innées. Si je pose des idées innées, mon intelligence n'a plus d'autonomie fondamentale. Où je suis obligé de faire comme Kant, le point de vue des formes a priori, c'est encore des formes innées. Tandis que là, je peux découvrir ce dont j'ai l'expérience. C'est moi qui ai découvert le blanc. C'est une découverte extraordinaire, découvrir blanc. Et chacun d'entre nous avons découvert homme. Ça va découvrir les prédicables, qui sont les plis fondamentaux et premiers de l'intelligence, de l'appréhension.
Vous posez la réceptivité en premier ou l'intellect agent en premier?
Attention, ça dépend où vous êtes le premier. La vie de l'intelligence se manifeste dans la réceptivité. Et si je veux expliquer cette réceptivité du vivant, je pose l'intellect agent. J'ai l'expérience de la réceptivité de l'intelligence. Ce qu'Aristote appelle l'hypolipsis. 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 L'intelligence reçoit. Je suis dans un état de réceptivité à l'égard de tout ce que j'expérimente. J'ai pas inventé le singe. Et quand je regarde homme et singe, je vois qu'il y a deux choses, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Et si quelqu'un dit j'ai inventé le singe, il vous dit, écoute, t'as même pas la place de Dieu. Ça devient dangereux, ça. Mais non, avant toi, il y avait la distinction du singe et de l'homme. C'est pas toi qui fais la distinction entre le singe et l'homme. Donc tu l'as reçu. Mais tu l'as reçu et tu l'as reçu toi-même. Vous voyez ? Et donc, d'une certaine manière, c'est vrai, tu l'as inventé. Puisque tu t'es mu intérieurement pour découvrir ça. Il n'y a rien de plus vital que mon intelligence. C'est pour ça qu'elle est le fondement de mon autonomie. vous le voyez très bien. Dans un secteur où vous avez vous-même connaissance, voyez, je prends le point de vue politique, avec la vie religieuse, on se coupe du point de vue politique. Donc au point de vue des élections, on n'en sait rien, qu'est-ce qu'il faut faire. On demande à quelqu'un de venir avec quelqu'un, très bien. Si au contraire vous suivez le mouvement politique, vous savez très bien, vous avez connu la chose, vous avez critiqué, et vous n'avez pas besoin de demander conseil. Vous avez vous-même votre propre jugement politique. Parce que vous avez la connaissance. Dans un secteur où vous n'avez pas la connaissance, au point de vue philosophique, au point de débat, vous recevez une polypsis. Vous recevez. Puis au bout d'un certain temps, ah quand même, hein, il y a des choses incohérentes. Je pose la question, comment ça se fait? Vous acquérez progressivement une indépendance. Vous mouvez vous-même. Dans l'affectivité, vous êtes toujours dépendant. Donc vous n'acquérez aucune autonomie par l'affectivité. Au contraire. Donc il faut que l'affectivité soit elle-même baignée de l'intelligence pour que je redécouvre mon indépendance sans supprimer l'affectivité. C'est ce qu'il y a de merveilleux avec l'intelligence. L'imagination domine. Donc vous n'arrivez jamais à trouver votre autonomie par l'imaginaire. L'imaginaire fait le tragique, et le tragique oppose. Vous avez une fausse autonomie. Vous avez l'autonomie de la victoire. Vous écrasez l'adversaire, et vous croyez que vous êtes autonome parce que vous écrasez, mais pas du tout. Celui qui domine n'a aucune autonomie. Il a écrasé quelqu'un. Et celui d'avoir poussé, il va retrouver sa victoire, vous êtes sûr? Oui, c'est la lutte. Ça, c'est l'imaginaire. Tandis qu'au contraire, l'intelligence respecte et donne l'autonomie. Alors à ce moment-là, vous aimez par vous-même dans un choix. Et vous n'êtes plus mu. C'est ça la chose prodigieuse de l'intelligence et de l'amour. Mais c'est très très important, c'est même capital pour nous. Autrement, on est mu par le bout du nez. Et on n'est plus vraiment homme, dans le sens de l'autonomie. Vous acceptez le dépassement de l'affectivité, c'est bien évident, mais le dépassement d'une affectivité spirituelle, pas d'une affectivité romantique, pas d'une affectivité imaginaire, pas d'une affectivité passionnelle. Celui qui est pris par la passion mais n'a plus aucune autonomie. Or, l'homme doit garder son autonomie plénière. Et plus il aime, plus il doit être autonome dans son amour, pour que le choix soit parfaitement libre. Vous voyez, quand vous dites à quelqu'un, je te choisis, mais je ne sais pas trop pourquoi. C'est passionnel, je ne sais pas trop pourquoi. Et alors, l'affectivité reste opaque. Il peut provenir d'un refoulement, tout simplement, d'un manque, comme on dit aujourd'hui. Oh, j'ai pas vu cette personne, elle me manque. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, le toxicomane dira la même chose. Il y a un manque. C'est très curieux, même dans le langage. Et ça exprime bien qu'au fond, ce n'est pas humain. C'est quelque chose qui vous lie, et malgré vous, et qui vient de limiter votre liberté. Tandis que la véritable affectivité ne limite jamais. Puisque je suis libre d'aimer. Et j'aime librement dans un choix. Et je suis à ce moment-là autonome dans ma dépendance. Exactement comme le polypsis fait que l'intelligence est réceptive tout en étant elle-même qui se meut. C'est pour vous montrer que la critique a quelque chose d'extrêmement pratique, c'est le comment. La critique est à l'ordre de ma vie intellectuelle ce qu'est la psychologie au niveau affectif. Mais le point de vue psychologique demande d'être critiqué par l'intelligence et la philosophie. Alors, le retour. Comment tension qui reste dans l'universel va-t-elle me permettre de comprendre le jugement? Le jugement me conduit à l'appréhension. Comment retourner aux deux? Puisque certains disent tout simplement, c'est très simple, puisque c'est complexe le jugement, c'est donc l'addition de plusieurs quiddités, de plusieurs appréhensions. C'est ce que dit Hobdam. Et ceci n'explique rien. Parce que ce n'est pas en ajoutant l'universel que vous retrouvez le singulier. Ce n'est pas en ajoutant diverses formes universelles que vous allez trouver le singulier. Comment se fait-il que je passe de blanc à ceci? Le nom est quelque chose de concret et singulier. Et le verbe est lui-même concret et singulier par le nom, puisqu'il y a identité. Ce mur est blanc. Quand vous dites ce mur est blanc, blanc attribué à ce mur, ceci, le ceci, qui est le mur, qui est la vache, ça importe peu. Ce blanc devient singulier dans l'attribution, puisque c'est identique. Il y a identité dans le jugement. C'est l'unité du jugement. Donc, le blanc ici est autre chose que le blanc de l'appréhension. Il garde la même signification, mais il a un mode tout à fait différent. D'un côté, il est universel, et d'un côté, il est singulier. Comment expliquer ce passage de l'universel au singulier? Donc, si je l'explique tout simplement en ajoutant, je n'explique rien du tout. Et c'est intéressant de voir que la position de Occam, donc 14e siècle, qui est la position d'un théologien, est au fond la même que celle de Kant. Le singulier, c'est le noumène, c'est la réalité existante, je ne la connais pas. Je ne connais que blanc. Je ne connais que... Et c'est ce qu'aboutit Occam, c'est qu'au fond, je ne connais que les formes. Les formes a priori. Et le singulier comme tel, je ne le connais pas. Alors c'est terrible. Il n'y a plus de vérité. Puisque je ne connais pas le singulier. Donc je fais à moi-même ma petite synthèse. Et c'est pour ça qu'on dit que la philosophie est une synthèse. C'est pas une synthèse, la philosophie. C'est chercher à connaître la réalité. Chercher à connaître l'homme. C'est très bien de connaître l'universel, mais si je ne connais pas le singulier, ça ne me sert à rien. Je me casse la tête et c'est tout. La philosophie revient toujours au singulier. Au singulier qui est la réalité. La réalité que je touche, que je nomme. Comment se fait ce passage de l'universel au singulier? Là, il faut poser le problème avec acuité. Il faut sentir que c'est là où, de fait, toutes les positions philosophiques, au point de vue critique, de la connaissance sont diversifiées. C'est toujours le problème fondamental, le passage de l'universel au singulier, du singulier à l'universel. Oui. Je suis passé du singulier à l'universel. Maintenant, je repasse de l'universel au singulier. Comment expliquer ça? Pas comment. Alors, comprenons bien, j'ai posé l'appréhension à partir du jugement. Donc, l'appréhension, c'est un élément de ma vie intellectuelle. C'est l'élément de ma vie intellectuelle. Je peux dire ça, c'est vraiment l'élément de ma vie intellectuelle. Je ne peux découvrir le passage de l'universel au singulier qu'en revenant à l'expérience. Pas autrement. Je suis parti de l'expérience pour poser l'élément. Mais l'élément est une conclusion, d'une certaine manière. Conclusion de l'analyse critique. J'ai posé l'élément d'appréhension. Ce n'est pas dans l'élément que je vais retrouver le jugement. Je suis parti du jugement. Donc, je ne peux jamais, à partir partir de l'universel ou retrouver le singulier. Il faut revenir à mon expérience. C'est ce qu'Occam ne fait pas. Il faut revenir, c'est ce que Kant ne fait pas. Il faut revenir à l'expérience, ceci est, pour comprendre comment dans ceci est, l'universel est contenu, est présent. Mais le singulier, je le connais par l'expérience. Je ne le connais pas à partir de l'appréhension. Mais l'appréhension est contenue dans le jugement. Ça, je crois qu'on peut tout simplement le comprendre dès que j'ai saisi que ce qui est immédiatement donné, c'est le jugement. Philosophie, c'est pour ça que la philosophie repose sur l'expérience. Elle ne repose pas du tout sur l'appréhension. Elle ne repose pas du tout sur les idées. C'est toute l'erreur de faire reposer la philosophie sur les idées. Les idées, c'est jamais premier. Une fois que vous aurez compris ça, que les idées, c'est jamais quelque chose de premier. Le concept, c'est jamais quelque chose de premier. Il n'y a plus de danger de tomber dans l'idéologie. L'idéologie, c'est de faire de l'universel quelque chose de premier. C'est de faire des idées quelque chose de premier. Or, non. Qu'est-ce qui est premier? C'est l'expérience. Et l'expérience m'est donnée dans un jugement. Ceci est. Donc, quand j'ai découvert l'appréhension, selon un mode universel, je ne peux pas, à partir de l'appréhension, redécouvrir l'universel, puisque j'ai exprès abandonné le singulier pour découvrir l'universel. Donc, dans l'universel, il n'y a pas le singulier. Je crois que ça, on peut facilement le comprendre. Il faut le comprendre. Et c'est capital de comprendre ça. Je reviens donc à l'expérience. L'expérience, c'est ceci est jugement d'existence, puisque c'est le jugement le plus fondamental. C'est donc lui qui doit expliquer toutes les autres espèces de jugement. Je ne pars pas d'un jugement de sagesse, puisque le jugement de sagesse en présuppose quantité d'autres. Donc c'est pas lui qui va m'expliquer. C'est le jugement le plus simple qui va me faire comprendre comment je peux unir l'universel et le singulier. Je reviens donc au jugement le plus simple. Ceci est. Par mode d'expérience, je peux dire que ceci est mon jugement le plus simple. Ça, c'est de l'art de l'expérience. Or, dans le jugement ceci est, c'est le verbe qui actue le nom. Le nom ceci n'est parfaitement actué que par le verbe. Le ceci seul. Ah oui, très bien, ceci. Est-ce qu'il existe ou qu'il n'existe pas? Puisqu'il y a jugement affirmatif. Négatif. Je peux dire ceci n'est pas. Quand je dis ceci n'est pas, ben le ceci, il ne m'intéresse plus puisqu'il n'est pas. Donc, c'est par le verbe être que je comprends le passage de l'abstrait au concret. C'est l'être seul saisi dans le jugement qui fait l'union entre l'universel et le singulier. Alors vous voyez qu'une philosophie qui n'est plus une